Dans la deuxième partie du cours, ce matin, on a vu l'assimilation de données dans toute sa forme la plus aboutie et la plus opérationnelle, c'est-à-dire telle qu'elle est mise en place dans les centres météo. Donc cet après-midi, on va regarder l'assimilation de données, mais plutôt au stade recherche, voire recherche et développement. En l'occurrence, des travaux donc, que je mène avec mes collaborateurs Julien Aubert, Lars Nerger et notre étudiante Sabrina Sanchez, qui ont plus trait cette fois-ci à l'application de ce type de méthode, étudier finalement cette fois-ci plutôt la faisabilité de l'application de ce type de méthode au problème de la génération du champ magnétique terrestre, donc au problème de ce qu'on appelle la dynamo terrestre. La présentation que je vais faire maintenant, elle s'inspire d'une conférence que j'avais donnée à Boulder au mois de juin dernier, qui, pour un public qui était celui des gens travaillant sur la dynamo solaire. Donc, ça va commencer par un rappel de ce qu'on sait sur le champ magnétique terrestre, et ensuite, plus dans le détail, comment est-ce qu'on peut essayer en pratique de mettre en œuvre les méthodes dont on a parlé jusqu'à présent pour le problème de. D'analyse et éventuellement de prévision des fluctuations du champ magnétique terrestre. Alors, donc il y a des messages qui sont les suivants. Donc, bon, ce qu'on sait sur le champ géomagnétique, c'est qu'il est créé par un processus complexe qui est non linéaire, qui est à l'œuvre dans le noyau de la Terre, qu'on appelle la géodynamo. D'accord ? La géodynamo, c'est un processus qui est très intéressant et très fascinant et qui opère sur une très large gamme d'échelles, qu'elles soient spatiales ou temporelles. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant aussi, par rapport à l'étude de ce phénomène, c'est qu'on a à notre disposition un catalogue de données d'observation du champ magnétique, un catalogue qui est très hétérogène, on va voir pourquoi, en qualité et en quantité, et c'est un catalogue qui ne cesse de s'enrichir depuis 10, disons, à 20 ans. Donc, le fait de disposer, finalement, d'observations, entre guillemets, de plus en plus fines du champ magnétique terrestre, c'est vraiment une motivation pour essayer, justement, de mieux comprendre les processus qui contrôlent les fluctuations du champ magnétique terrestre sur des échelles de temps. Alors là, attention, on va changer d'échelle de temps, qui vont être annuelles, acéculaires, voire millénaires. D'accord ? Donc, ce matin, dans l'atmosphère, on parlait jour. Quand on regarde le champ magnétique, on manipule un petit peu, si vous voulez, les mêmes concepts, sauf que les échelles de temps, cette fois-ci, c'est plutôt l'année à la dizaine d'années, à la centaine, voire au millier d'années. Historiquement, les fluctuations du champ magnétique terrestre, on appelle ça la variation séculaire géomagnétique. Et pourquoi on dit ça ? Parce que quand on a commencé à mesurer le champ magnétique, en particulier à Paris, au XVIIe siècle, on a vu que, ben, par exemple, l'angle entre le champ magnétique et le plan horizontal variés sur des échelles de temps relativement lentes. C'est pour ça qu'on a commencé à introduire cette notion de variation séculaire. En pratique, aujourd'hui, on parle encore de variation séculaire, même si on sait que dans ce signal, il y a des fluctuations qui sont plus rapides, qui sont d'origine interne, qui viennent de la géodynamo, qui sont plutôt sur des échelles de temps interannuelles. Mais traditionnellement, on parlera toujours de variation séculaire. Donc, pourquoi mettre en œuvre ou essayer de mettre en œuvre des algorithmes d'assimilation de données ? Bon, ben là, on est vraiment dans l'étape vraiment 1.0 du processus, c'est-à-dire d'essayer de mieux comprendre la physique qui contrôle ce qu'on observe. Donc l'idée, c'est de faire un aller-retour entre les modèles théoriques qu'on peut construire, les observations, voir éventuellement s'il y a un problème, diagnostiquer le problème, revenir à la théorie, essayer d'améliorer la théorie, faire comme ça, ce mouvement d'aller-retour. On est vraiment là dans l'étape basique de compréhension de la physique. Dans un deuxième temps, une fois qu'on pense qu'on a cette physique à peu près en place, on peut essayer de dire des choses sur la structure donc de l'écoulement et du champ magnétique, donc la structure magnéto-hydrodynamique, à l'intérieur du noyau terrestre. Je vais vous expliquer que la physique me dit que finalement ma connaissance du champ magnétique terrestre créé par la dynamo, et intrinsèquement limité à ce qui se passe à la surface du noyau de la Terre. Donc là, l'exercice que je dois faire avec mes hypothèses physiques et mes idées d'assimilation, c'est d'essayer de deviner, sur la base donc d'une théorie, comment est-ce que cette structure de surface que je peux un petit peu deviner grâce à mes mesures est corrélée à une structure plus en profondeur de l'écoulement et du champ magnétique dans le noyau de la Terre. C'est ça que je veux dire quand je dis de mettre des. Quand j'écris que je veux mettre des contraintes, placer des contraintes sur la structure interne du noyau. Et puis une fois qu'on a ces deux étapes à peu près en place, et bien on peut essayer de se lancer dans un exercice de prédiction, semblable à l'exercice de prédiction d'évolution du temps, sauf que là, on va faire une prévision de fluctuations dans le futur du champ magnétique terrestre. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce type de travaux, là, il a commencé il y a à peu près 8 ans, et qu'on en est encore au stade de la recherche. On est vraiment loin d'être opérationnel. On est vraiment à l'étape qu'on pourrait qualifier d'étude de faisabilité. Alors j'avais trois parties dans cette conférence, je pense que je me limiterai aux deux premières. Une introduction assez générale sur le champ géomagnétique, et puis l'illustration de l'application donc de ce qu'on appelle le filtre de Kalman d'ensemble, ce dont on parlait ce matin, à un modèle numérique de la géodynamo cette fois. Si j'ai un petit peu de temps sur la fin, je parlerai peut-être un petit peu de lissage, mais on n'est pas, on n'a pas besoin, je pense, de passer par cette étape. Contentera, je pense, des deux premières étapes. Donc, j'étais avec des astrophysiciens quand j'ai fait cette conférence. Donc, les astrophysiciens, ils sont restés coincés dans un système d'unité qui n'est plus du tout le système utilisé maintenant. Ils sont encore en CGS, c'est-à-dire que leur champ magnétique, ils expriment en Gauss, alors que tout physicien normalement constitué doit exprimer son champ magnétique en Tesla. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont plus à l'aise avec les Gauss, bon, ben, ils doivent utiliser cette table de conversion entre les Gauss et les Tesla, d'accord ? Et à partir de maintenant, je me contenterai de parler, moi, en Tesla, qui est donc l'unité qui correspond au système MKS. Voilà, donc le champ géomagnétique, donc ça, c'est vu d'artiste, ça vient de l'European Space Agency, qui montre donc, la Terre avec, en bleu, des lignes de champ magnétique, dont on devine, alors assez un petit peu torturé, le produit de leur interaction avec ce qu'on appelle le vent solaire. Je pense que Sacha a un petit peu parlé de ça. Donc, quand on regarde ces lignes de champ, on voit que, en voyant un petit peu ces perturbations, il est essentiellement dipolaire. D'accord ? Et puis, si on fait l'analyse un peu plus fine, on voit qu'il est créé à l'intérieur de cette région ici de l'intérieur de la Terre qu'on appelle donc le noyau. Le noyau, hein, on connaît bien sa composition, c'est essentiellement du fer, un alliage. Fait un nickel et avec en plus un petit peu d'éléments légers. Donc la partie centrale du noyau est à cristalliser. Elle a cristallisé il y a entre à peu près 500 millions et 1 milliard d'années. Cette cristallisation s'est poursuivie au point d'avoir ici une graine qui fait maintenant un peu plus de 1200 km de rayon. Donc la partie extérieure ici, même si la Terre continue de se refroidir, elle est encore fluide. Et c'est donc dans cet océan, si vous voulez, de fer, nickel, liquide, donc dans ce métal liquide, que des courants, une circulation se met en place qui entretient un champ magnétique. Et donc la racine, la source du champ magnétique terrestre, la source principale du champ magnétique terrestre, elle est ici, c'est la dynamo, qui donc est à l'œuvre dans le noyau de la Terre. Donc j'imagine que tout le monde a déjà entendu parler de la géodynamo. Ok ? Alors, donc ça c'est un petit rappel sur la structure interne de la Terre, donc ça c'est un plateau, ce sont des silicates, le noyau externe fluide de notre corps, et puis la graine solide. Alors au passage, la frontière ici entre le noyau et le manteau, c'est ce qu'on appelle le core mantle boundary. Donc pour les géophysiciens, CMB, ça n'a rien à voir avec ce dont on a déjà entendu parler. CMB, c'est le core mantle boundary, c'est donc la frontière noyau-manteau. Alors, donc j'ai parlé de cette source principale qui est ici dans le noyau fluide. Le fait est que c'est la source principale, mais il existe d'autres sources qui contribuent à une mesure magnétique que je vais faire où dans un observatoire magnétique. La surface de la Terre ou sur un satellite. D'accord ? Alors, on a tout d'abord un ensemble de sources externes qui consistent en des systèmes de courants qui se mettent en place entre la magnétosphère et la ionosphère, et le courant de couplage entre les deux, et de la ionosphère. Et du point de vue des sources que je vais appeler internes, puisqu'elles sont sous mes pieds, on a donc la dynamo et éventuellement des courants induits dans le manteau. Alors le manteau sont des silicates, hein, c'est pas très conducteur, mais c'est quand même suffisamment conducteur pour que si ma mesure est suffisamment précise, je puisse détecter la présence de courants induits dans cette enveloppe. J'ai aussi, et ça c'est important, une composante d'aimantation permanente qui a été gelée, si vous voulez, dans la croûte. Alors ça c'est très important, on va voir pourquoi ensuite. C'est parce que cette aimantation de la croûte, cette aimantation crustale, elle forme ce qu'on appelle un rideau magnétique, magnetic curtain, d'après Paul Roberts, et elle m'empêche, si vous voulez, de voir de façon fine le champ qui est créé dans le noyau. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui fait que finalement, la personne qui s'intéresse au champ magnétique qui est créé par la dynamo terrestre est nécessairement myope. Ne connaît que les grandes échelles de fluctuation du champ qui est créé dans le noyau. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, c'est embêtant ça, parce que finalement, dans le meilleur des cas, si je suppose que je me promène et que je mesure donc la composante par exemple verticale du champ magnétique ici, ça c'était pour la conférence du mois de juin, j'avais fait un petit calcul en supposant que je mesurais la composante verticale du champ magnétique à Boulder, Colorado. Le fait est que lorsque je fais une mesure du champ magnétique, de la composante ici verticale du champ magnétique à Boulder, Colorado, j'échantillonne une certaine portion de la frontière noyau-manteau, ce fameux Kormakol-Mandarin. C'est-à-dire que la mesure ici, faite à la surface de la Terre, à Boulder, elle échantillonne effectivement, elle réalise, si vous voulez, l'équivalent d'une certaine moyenne pondérée de la composante radiale du champ magnétique dans ce patch ici, à la surface du noyau. La raison pour ça, c'est essentiellement de la théorie du potentiel. S'il y en a qui s'intéressent, on pourra voir pourquoi. Ce qui se passe en gros, c'est qu'on se passe loin de la source, et que la mesure qu'on fait ici, si vous voulez, elle voit, elle est influencée par le champ magnétique dans cette région-ci. D'accord ? Alors maintenant, si on fait ça, on se dit, c'est bien, si je suis capable de faire un certain nombre de mesures, c'est bien réparti à la surface de la Terre, je vais avoir une connaissance parfaite. Comme ça, du champ magnétique à la surface du noyau. Oui, sauf que, comme on l'a déjà dit, la croûte est aimantée. Vous avez ici une carte mondiale de ce qu'on appelle les anomalies magnétiques. Alors, c'est l'amplitude qui des perturbations locales de mesure du champ magnétique qui sont dues à l'aimantation portée par la croûte. D'accord ? Alors, pour vous donner une idée des ordres de grandeur, vous voyez que l'échelle va de 0 à quelques centaines de nanotesla. Typiquement, si vous avez un téléphone portable, par exemple, vous pouvez installer des petites applis qui mesurent le champ magnétique pour vous, parce que les téléphones portables, maintenant, ils possèdent un petit magnétomètre. D'accord ? Ce qui permet en particulier de se caler pour avoir la direction pour se déplacer. C'est pas uniquement le GPS qui compte, on peut aussi utiliser l'équivalent d'une boussole. Si vous mesurez l'intensité du champ magnétique à Paris, par exemple, vous allez trouver quelque chose de l'ordre de 50 000 nanotesla, 50 microtesla. Par rapport à ce signal crustal, vous voyez que le signal crustal est vraiment beaucoup plus faible. Le fait est que, malheureusement, vu que je m'éloigne de la source du champ magnétique, je vais avoir un effet, là je vous en ai beaucoup bien expliqué, d'atténuation géométrique. D'accord ? Donc le champ magnétique à la surface du noyau contient un certain nombre d'échelles. D'accord ? Ces échelles, je peux les décrire à la surface de la sphère sur la base de ce qu'on appelle les harmoniques sphériques. D'accord ? Une harmonique sphérique, c'est caractérisé en particulier par son degré, L. Plus le degré harmonique est élevé, plus l'échelle associée est petite. D'accord ? Donc quand on parle d'un dipôle, par exemple, un dipôle, c'est le degré harmonique. D'accord ? Donc c'est la plus grande échelle possible pour un champ magnétique. Donc, le fait est que si je suppose que j'ai une source à la surface du noyau et que j'observe cette source en m'éloignant, j'ai ce qu'on appelle, dans un milieu là, on va supposer isolant, j'ai un effet d'atténuation géométrique quand je m'éloigne de la source. Ça, c'est classique de la théorie du potentiel. C'est-à-dire qu'à mesure que je m'éloigne de la source de mon signal, je ne vois plus que les grandes échelles. D'accord ? Je peux prédire que en m'éloignant de la surface du noyau, un moment, je vais avoir une très faible connaissance des petites échelles du champ de la dynamo. Donc on peut écrire des équations qui contrôlent ça, et si on fait ça, on voit finalement que on a à la surface de la Terre un spectre énergétique, si vous voulez, c'est-à-dire le contenu énergétique du signal magnétique qu'on mesure, qui suit une loi en fonction du degré harmonique qui est donné par la courbe en rouge. Donc, ce que vous voyez finalement, c'est qu'on a le coefficient L égale à 1 qui est ici qui domine, ça c'est le dipôle, d'accord. Et puis, à mesure qu'on va chercher les échelles plus petites, on a une décroissance ici, qui, si on l'analyse, est finalement compatible avec l'hypothèse d'un spectre blanc, c'est-à-dire même énergie dans toutes les échelles à la surface du noyau, qui subirait les effets de la population géométrique. D'accord. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si ce spectre énergétique-là, je le transcris en carte, tout simplement du champ magnétique à la surface de la Terre, j'obtiens cette carte ici en 2007, et là on voit que cette carte-là, c'est quand même plus ou moins la carte associée à un dipôle. D'accord. Quand c'est positif, la composante radiale est positive, c'est-à-dire que les deux champs sortent de l'hémisphère sud. Quand c'est négatif, ça va être dirigé vers le bas, c'est-à-dire que c'est les deux champs qui sortent ici, si vous voulez, elles bougent, elles rentrent à l'intérieur de la Terre dans l'hémisphère nord. Donc globalement, ce champ-là, quand on regarde, on voit effectivement qu'il est celui d'un dipôle avec quelques petites perturbations. Ces petites perturbations, c'est la signature des composantes non-dipôles, donc de petite échelle, du champ magnétique. Alors si je prends cette carte-là, que je la décris en harmonie sphérique, que je fais ce qu'on appelle une projection vers le bas, c'est-à-dire que je pars de la surface de la Terre, je prends les différents coefficients harmoniques, et hop, je descends à la surface du noyau, en me rapprochant de la source, géométriquement, naturellement, je vais faire ressortir les petites échelles. D'accord ? Je vais globalement gagner en intensité, je vais me rapprocher de la source, et donc je vais gagner du détail. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, je prends le champ de la surface, je fais le petit travail de projection vers le bas, j'obtiens cette carte-là, at the core matter boundaries, qui est dit. C'est toujours, vous voyez, dipolaire, globalement, mais j'ai de-ci de-là une petite structure de petites échelles qui sont sorties. Et ça, c'est uniquement un effet géométrique, je suis en train de me rapprocher de la source. Ça se traduit, du point de vue spectral, par le spectre bleu ici. D'accord ? Alors l'échelle rouge et l'échelle bleue, c'est pas la même. Finalement, quand je passe de la surface de la Terre à la surface du noyau, je gagne, en me rapprochant des sources, en gros un facteur 10 dans les amplitudes. D'accord ? En énergie, ça peut être ça. Je vois, quand je regarde spectralement l'énergie, ce qui se passe, que le dipôle est toujours au-dessus. D'accord ? Et qu'après, c'est à peu près pas. Ce que je vois aussi, c'est que quand je vais mettre le degré harmonique 13, j'ai un spectre qui rebique. Donc ça, c'est en train de me dire, cette histoire, que l'exercice de projection que je fais, il est instable. Il est instable. Donc, ce qui se passe finalement, c'est que au-delà du degré 13, le signal du noyau, il est caché par le signal de la croûte. D'accord ? On a vu que la croûte avait une aimantation rémanente qui était globalement de petite échelle, d'accord ? Distribuée de cette façon à la surface de la Terre. On a vu que les amplitudes étaient petites. Le problème, c'est que ces amplitudes sont petites, mais suffisamment grandes malgré tout pour masquer la contribution de petite échelle du champ du noyau à une mesure que je vais faire à la surface de la Terre. Donc c'est cet effet-là qui est l'effet donc, de rideau magnétique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, le résultat de cette analyse, il me dit quoi ? Il me dit, si je suis intéressé dans les fluctuations du champ magnétique terrestre qui est dû à ce qui se passe dans le noyau, c'est-à-dire dû à la dynamo, je suis intrinsèquement, parce que j'ai une croûte, limité au 13 premier degré d'harmonie sphérique. D'accord ? Donc c'est un problème global de grande échelle. Et ça a des conséquences assez importantes sur justement la représentation que je vais faire des processus. Voilà, donc le message qu'il faut prendre à la maison là, c'est que sur les échelles qui nous intéressent, qui sont les échelles de la dynamo, c'est-à-dire les échelles de temps annuel à séculaire, le champ que je mesure, il est relié et il est restreint de toute façon aux grandes échelles de la composante radiale du champ magnétique à la surface du noyau. D'accord ? Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que les petites échelles, je ne les vois pas, parce qu'elles sont écrantées par le champ de la croûte. D'accord ? Ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai oublié de dire, c'était que finalement, les contributions externes de la mesure du champ magnétique, liées au système de courant de la magnétosphère et de la ionosphère, celles-ci, je pouvais facilement les éliminer par un filtrage temporel, parce qu'elles vivent à des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes que ce qui, moi, m'intéresse. D'accord ? Donc le géomagnéticien qui s'intéresse à la dynamo, il est myope, donc comme moi. Alors maintenant, une fois qu'on a fait cette première connexion entre ce qu'on pourrait éventuellement mesurer en un point à la surface de la Terre et le champ à la surface du noyau, on peut regarder un petit peu les données dont on dispose. Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que dans cette discipline, il y a beaucoup de données avec des résolutions et des qualités différentes. Alors, la mesure de base qu'on veut faire, hein, c'est la mesure d'un vecteur ici. Donc soit on mesure tout simplement les trois composantes du vecteur,
d'accord,
donc une composante nord, une composante ouest, et une composante vers le bas. Soit au contraire, ou de façon équivalente, on peut mesurer la norme du vecteur, ce qu'on appelle F en géomagnétisme, et puis des propriétés angulaires, on voit pas bien ici. I, c'est l'angle qu'on appelle inclinaison, c'est l'angle entre le champ magnétique local et le plan horizontal, et D, c'est la déclinaison. La déclinaison, c'est l'angle que vous avez entre le vrai nord, d'accord, qui correspondra à la composante X, et le nord magnétique. Donc j'ai deux façons, hein, rigoureusement différentes d'ailleurs, de décrire mon vecteur champ magnétique. C'est soit les trois composantes cartésiennes, Y, Z, soit la norme du champ magnétique et ses deux paramètres angulaires, inclinaison et puis déclinaison, suivant mon alignement par rapport au nord magnétique, au nord géographique. Alors, les données les plus anciennes dont on dispose sont des données qu'on appelle des données indirectes, c'est-à-dire qu'on va prendre des échantillons dans la nature ou des échantillons fabriqués par l'homme. Dans ces échantillons, on aura des porteurs d'aimantation. On va analyser en laboratoire cette aimantation et on va en déduire la direction, éventuellement l'intensité locale du champ magnétique au moment où l'aimantation a été acquise. Donc ça, c'est sur les disciplines du paléomagnétisme ou de l'archéomagnétisme. Alors par échantillon, ça peut être échantillonné à une coulée de lave. Aller regarder ce qui se passe dans des carottes sédimentaires, ou alors aller sur des sites archéologiques, prendre des poteries, regarder un petit peu l'aimantation qui est portée par ces poteries, en déduire des choses sur le champ magnétique qui était en place au moment où ces poteries ont été mises en place, construites. C'est aussi le cas, par exemple, sur les sites archéologiques, on va aller prendre des briques de four et on va regarder l'alimentation qui est portée par les briques. Et ça nous donnera des choses, des informations sur l'intensité du champ magnétique au moment où le four a été utilisé, donc pour la dernière fois, c'est-à-dire pour la dernière fois où le matériau était porté au-delà de la température du cuivre. Donc ces échantillons de type paléo et archéomagnétique couvrent des échelles de temps qui sont très très vastes, hein, c'est les derniers centaines, milliers, dizaines, millions d'années. C'est ce type d'analyse qui est à la base du paléomagnétisme et donc de l'établissement de la théorie de la tectonique des plaques. Plus proche de nous et aussi plus précis. Alors j'ai oublié de préciser que l'aimantation en laboratoire je la caractérise par déclinaison, inclinaison et intensité. Si je vais regarder après dans les carnets de bord des navigateurs, je vais pouvoir, et c'est un travail qui a été fait, un travail remarquable qui a été fait par des collègues anglais, je vais pouvoir analyser le contenu des carnets de bord et voir, par exemple, en fonction du temps lors d'un voyage de nez, point A, point B, quelle était la déclinaison. Donc j'ai une information angulaire directionnelle sur le champ magnétique le long du trajet qui a été suivi par le bateau. Donc ça, c'est très précieux parce que ça permet de couvrir deux siècles, disons le 17e et le 18e, au cours desquels on avait conscience, si vous voulez, que le champ magnétique variait, mais on n'avait pas encore eu Gauss pour nous dire « Attendez les gars, ce qu'il faut, c'est mettre en place un système ou un réseau d'observatoires. » Parce que Gauss s'intéressait sur la fin de sa carrière à un pivot pour un magnétisme. C'est lui, d'ailleurs, pour faire ça, qui a inventé les harmoniques sphériques. Il a dit « Si on veut vraiment caractériser de façon propre les fluctuations du champ magnétique, il faut installer des observatoires. » Son papier très connu sur l'analyse du champ magnétique terrestre date de 1839 et on a commencé à déployer des observatoires magnétiques à partir de 1850. D'accord ? Donc ce que vous voyez ici, c'est par exemple l'observatoire de Chambon-la-Forêt. D'accord ? Donc on se place dans un environnement calme, à l'abri des perturbations électromagnétiques et on mesure de façon continue les trois composantes cartésiennes. Du champ magnétique. Donc il y a certains observatoires qui fonctionnent. fonctionne depuis plus de 150 ans. Donc ça, ce sont des séries temporelles qui sont très précieuses, puisqu'elles sont, en termes de contenu fréquentiel, elles sont continues, et on a une donnée au moins par jour. Donc ça, c'est très très important. Et enfin, dernier apport, c'est l'apport des satellites. Donc ça fait maintenant à peu près 15 ans qu'on a des satellites qui mesurent le champ magnétique qui tournent autour de la Terre. Donc vous avez ici le satellite Jump, évidemment, et ici vous avez la mission SWARM, qui a été lancée donc, en novembre 2013, et dont l'IPGP est partenaire. Donc SWARM, en anglais, ça veut dire un essaim. Donc le SWARM ici, c'est un essaim de 3 satellites qui tournent depuis bientôt 2 ans et qui permet, on va voir rapidement pourquoi, d'avoir une cartographie sans précédent en termes de précision du champ magnétique. Donc des catalogues qui sont par nature très différents, qui couvrent des échelles de temps très différentes, parce que les données paléo-arcométriques, ça va vous donner accès à quelques milliers d'années, voire plus. Les données de navigation, on va avoir ce qu'on appelle la période historique, c'est-à-dire 400 ans. Les observatoires, on a à peu près 150 ans, et puis les satellites, on a depuis 15 ans. Alors, quand on a ces échelles de temps-là, c'est bien de les mettre en regard avec les temps caractéristiques du processus qui nous intéresse. Donc, un temps caractéristique qu'on peut construire assez facilement, c'est le temps caractéristique de la convection dans le noyau. D'accord ? Ce temps caractéristique-là, il est de l'ordre de 150 ans. Donc, quand vous avez les données historiques sur 400 ans, vous avez à peu près 2 temps de retournement du noyau. Ça commence à être intéressant si vous voulez étudier cette dynamique. Le temps de diffusion magnétique, ça, c'est un temps qu'on peut construire aussi quand on regarde l'équation de l'induction dont Sacha et Isabelle nous ont parlé. Le temps de diffusion magnétique, c'est le temps qu'il faudrait à la dynamo pour s'éteindre complètement si j'arrêtais sa source. Donc je prends ma dynamo terrestre, j'arrête le mouvement qu'il entretient, il lui faut en gros ce compilant pour s'éteindre. D'accord ? Donc ces deux temps-là sont un peu les temps limites qui sont intéressants. J'arrête là, j'allais parler du nombre de Reynolds, mais on n'en a pas besoin. Donc je continue. Alors, donc des échelles de temps différentes couvertes et en même temps des précisions aussi complètement différentes, puisque sur les mesures archéo et paléomagnétiques, vous avez ici différents cycles d'échantillonnage, vous avez une distribution qui est très irrégulière à la surface de la Terre, d'accord ? Donc une couverture globale qui est vraiment à désirer. La situation est un petit peu meilleure quand on regarde le carnivore. Vous avez ici par exemple toutes les données historiques liées à cette histoire de navigation qui ont été compilées par Juncker et ses collaborateurs. Et donc, ça, pour vous donner une idée, c'est l'ensemble des points de données sur la période entre 1770 et 1790. Vous avez comme ça quelques dizaines de chemins suivis par le. Donc ça, de nouveau, c'est mieux que ça. C'est moins bien que ça, qui est finalement une carte récente de distribution des observatoires magnétiques à la surface de la Terre. L'intérêt, de nouveau, de ces séries, c'est qu'elles sont continues dans le temps, mais là, de nouveau, vous voyez que les trucs couverture complètement homogène à la surface de la Terre, essentiellement parce que les observatoires sont sur les continents. Donc une façon vraiment d'aller un cran dessus en termes de couverture, bah, c'est d'avoir des satellites. Donc ici, par exemple, vous avez 3 jours de données vectorielles par le satellite Chang. Un satellite magnétique, hein, rapidement, c'est relativement petit. Ça possède un très long bras, ce qu'on appelle un boom. On ne voit pas très bien, mais il continue jusque-là. Et puis, toute votre instrumentation magnétique, elle est là, à l'extrémité du boom, de façon à ne pas être perturbée par tout ce qui est électromagnétique qui se passe ici. Ces engins-là, ça met à peu près 1h30 pour faire un grand cercle autour de la Terre. D'accord ? Hein ? Donc c'est très rapide, ça va à peu près 8 km par seconde. D'accord ? Donc en 1h30, ça fait un tour de la Terre sur une orbite légèrement désaxée par rapport à l'axe des pôles. D'accord ? Ce qui fait qu'en 3 jours de données, par exemple avec Champ, on a ce type de couverture qui est obtenue. D'accord ? Donc là, vous ne voyez pas ce qui se passe au pôle parce que dans ce cas-là, on parle uniquement des données 3 composantes, des données vectorielles qui ont été acquises, et que ces données-là, en général, on ne les considère pas à beaucoup de latitude, justement à cause de l'influence des cornées polaires et des courants alignés dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, ça me donne une bonne idée de la couverture. Vous voyez qu'elle est accrue de façon exponentielle, on peut dire, avec l'apport des satellites. Donc ça, finalement, ça fait un joli problème à résoudre, parce que lorsqu'on va passer des enregistrements paléomagnétiques, archéomagnétiques, on va avoir accès uniquement grandes échelles de fluctuation du champ, mais en même temps à des périodes relativement grandes. D'accord ? Lorsqu'on va ensuite vers les données de navigation, les données d'observatoire et finalement les données satellites, on est en train de regarder des choses qui courent des périodes plus courtes, mais qui sont plus précises en espace. Vous avez comme ça cette suite un petit peu de poupées russes sur lesquelles il faut travailler pour essayer de faire un bon travail de compréhension des fluctuations du champ magnétique. Alors on se dit bien que finalement, ces différentes observations, elles sont toutes reliées par la même mécanique, c'est la mécanique de la géodynamo. Et donc l'idée de faire de l'assimilation, c'est de voir si on ne peut pas relier ce qui se passe, ce qu'on observe à ces différentes échelles de temps et d'espace par des processus. Les processus, on sait qu'en plus, enfin plus théorique, ils couvrent une gamme d'espace et de temps beaucoup plus large. D'accord ? Donc finalement, l'assimilation de données peut permettre, si vous voulez, de réaliser cette fusion des différentes sources d'observation qu'on a du champ magnétique. Alors, c'était donc ça dans le plan du cours, la première source d'information, des observations. Maintenant, on va avoir la deuxième source d'information qu'on va essayer de combiner avec ces observations, c'est-à-dire notre modèle physique de la géodynamo. Donc, c'est vraiment l'idée là, de faire de l'assimilation de données, c'est-à-dire qu'on veut combiner les données dont on a parlé avec un modèle numérique avec des pouvoirs prédictifs de la dynamo. Donc, je peux représenter de façon, si vous voulez, schématique la surface de la Terre ici, la CFD ici, et les deux champs magnétiques qui sont donc pour l'instant que je peux décrire uniquement à l'extérieur du noyau, puisque dans le noyau il y a des courants, et donc mon travail de projection vers le bas. Il est uniquement valable dans des régions isolantes. D'accord ? Parce que je m'appuie sur la théorie du potentiel. À partir du moment où je mets le doigt, le pied dans le noyau, j'ai des courants, la théorie du potentiel ne marche pas et donc je ne peux pas aller plus loin dans mon exercice de projection vers le bas. Donc si je veux être capable de dire des choses sur ce qui se passe à l'intérieur, il faut que je fasse un a priori physique et donc il faut que j'ajoute l'information qui viendrait de ce modèle numérique de la géodynamo. Alors, bon, c'est toujours la même chose, c'est toujours des grosses conservations. On va conserver la masse, la quantité de mouvement et l'énergie, et on va coupler ça avec les équations de Maxwell qu'on a déjà vues ce matin et avec Sacha. Donc on considère, comme dans le cas de Sacha, je suis sûr, dans l'approximation MHD, c'est-à-dire qu'on néglige le courant de déplacement. Donc j'écris tout ça, et puis ça donne finalement un ensemble d'équations non linéaires tridimensionnelles couplées, donc des équations de dérivées partielles que je dois résoudre, et moi je résous ça dans une copie série, la géométrie au premier ordre du noyau. En général, nous, pour la Terre, on fait ça dans l'approximation de Poussinesque, et puis la méthode qu'on utilise, c'est une méthode de type pseudo-spectral. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, une fois que j'intègre mon modèle numérique de la dynamo, je suis capable de proposer une solution interne de la dynamo terrestre. Donc là, ce que vous voyez, finalement, une photo du champ magnétique à l'intérieur du noyau d'après un modèle numérique de dynamo donné, la surface extérieure ici, ça serait la frontière magnétique. Ces tâches données en rouge, ce sont des tâches de flux magnétique à la surface du noyau. Et puis, vous avez la même représentation de tâches de flux au niveau de la graine. Et les spaghetti grid, vous voyez, ce sont des lignes de champ magnétique. Des lignes de champ magnétique dont, au passage, la largeur locale est proportionnelle à la densité d'énergie magnétique. D'accord ? Donc, une représentation comme ça, ce qu'elle ne donne pas directement, c'est l'écoulement. Mais il faut bien avoir en tête que cette dynamo est entretenue par un écoulement. Par contre, ce qu'on voit finalement, c'est le résultat de l'interaction entre l'écoulement et les lignes de champ magnétique. Hein, ce matin, vous avez entendu parler donc, du phénomène du flux gelé, c'est-à-dire du transport des lignes de champ magnétique par un écoulement. C'est exactement ce qui se passe ici. Vous avez un grand tourbillon, assez grande échelle, qui interagit avec une ligne de champ magnétique qui lui donne ce qui est un petit peu tordu ici. Ça, c'est, si vous voulez, la signature magnétique de l'interaction d'une ligne de champ magnétique avec un vortex ou un tourbillon de grande échelle. Donc ça, c'est le modèle que j'utilise pour essayer de proposer quelque chose sur la structure interne de la dynamo. Ce qui pourrait me conduire, connaissant la valeur du champ magnétique et la surface du noyau, à proposer une structure en ligne de champ intérieur qui ressemblerait à vous voyez au passage, dans ce cas-là, qui correspond à un cadre qu'on a calculé, hein, la structure interne du champ magnétique, elle est beaucoup plus compliquée à l'intérieur de la dynamo, parce que c'est ici qu'on fait le champ, qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, très rapidement, finalement, on récupère le dipôle, on s'éloigne de la source. Alors, donc là, je présente l'algorithme d'assimilation séquentielle qu'on a mis en place pour essayer justement de faire de l'assimilation de données avec ce type de modèle numérique. Donc maintenant, vous connaissez une trajectoire initiale des données, une première prédiction, le calcul de la différence, donc de l'innovation entre l'observation et la prédiction, la production d'une analyse, et la production séquentielle d'analyse. Essayer de tenir mieux au compte, pour tenir compte.